on met pas de l'ananas sur une pizza, tu vois, ça n'a aucun sens.
On m'a tout le temps dit, c'est cliché de l'italien qui mange pas des pizzas ananas.
C'est pas bon, bah, c'est dégueulasse parce qu'il y a du fruit sur la pizza.
Donc l'ananas, c'est un peu le pantacourt de la gastronomie.
Mais j'ai découvert que gustativement, c'est très intéressant. Tous les cuisiniers, et même des Italiens, une fois dans la vie, vont goûter cette pizza ananas. Juste pour se faire une idée et être pragmatique, dans le sens, si c'est bon, le dire que c'est bon.
Après tout, pourquoi pas? Moi, si on me servait une pizza à l'ananas, je la goûterais. Puis après, j'irai voir un exorciste, mais je la goûterai.
Se revendiquer comme mangeur de pizza ananas ou au contraire comme opposant à la pizza ananas, c'est revendiquer faire partie d'un groupe.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Le monde a un avis sur la pizza hawaïenne, et celui-ci est forcément tranché. Comment expliquer cela? Pourquoi se sent-on autant obligé de revendiquer son fort amour ou à l'inverse son profond dégoût pour l'ananas sur les pizzas? Très ancrée dans la culture populaire, à travers les séries, les mèmes et les plaisanteries, l'histoire de la pizza ananas est si clivante qu'elle ne peut se limiter à un simple débat à propos de l'ajout d'un fruit sur un monument de la gastronomie italienne. Le cas de la pizza hawaïenne dit forcément autre chose. Un quelque chose qui touche au purisme en matière de comportements alimentaires, à la subversivité en cuisine, au goût et au mauvais goût, et au principe de faire communauté derrière eux. Vous écoutez une série sur la pizza hawaïenne, mais surtout sur la construction d'une norme culinaire et sur ce que aimer ou ne pas aimer en dévier dit de nous. Je viens de sortir de chez Gianmarco Gorni, l'un des seuls chefs italiens à admettre son goût pour la pizza hawaïenne à visage découvert.
Depuis que je suis petit, qu'on m'a dit que c'est interdit de mettre de l'ananas sur la pizza. Et j'ai tout le temps snobé ça jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai goûté. En fait, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai découvert ça à 26 ans, que la pizza ananas, la pizza hawaïenne, c'est une grande découverte culinaire parce que c'est un ensemble de jeux de texture, de jeux de parfum, de goût qui est exceptionnel.
Et je m'interroge, d'où vient cette réticence à se dire fan de cette pizza? Enfin, en principe, je comprends qu'il s'agit de purisme et de tradition, mais intrinsèquement, de quoi cet ajout d'ananas est-il le nom? Gianmarco sait que crier son amour pour la pizza à l'ananas n'est pas sans risque.
J'espère que mes parents me reconnaissent encore comme leur fils.
Et il n'a pas tort de craindre les représailles, car à l'écoute de cette interview sans filtre, dans laquelle Gianmarco m'a raconté son amour pour l'ananas sur les pizzas, a tout de suite fait bondir le vice-champion de France de la pizza 2018, Julien Séry, qui m'a envoyé cette note vocale.
Nous, on a besoin d'un visage pour le mauvais goût. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir la photo de Gianmarco et de la mettre dans toutes les pizzerias en disant « ce cuisinier-là aime la pizza à l'ananas ».
Alors, quel est le problème avec cet ananas? Pourquoi est-il l'ingrédient de la discorde en matière de pizza? Peut-être parce que l'ananas ici n'est pas juste un fruit. La démocratisation de l'ananas en boîte est le fruit d'une mondialisation. Comme l'a dit Pierre Leclerc dans le précédent épisode, la pizza hawaïenne représente une époque où on hawaïenisait les mets en leur ajoutant quelques rondelles d'ananas en conserve. Une coquetterie qui permettait de convoquer à moindre frais tout le potentiel exotisant de ce fruit dont la culture autrefois onéreuse à Hawaï ne le destinait qu'aux tablés les plus riches.
L'ananas, il est vrai, symbolise l'exotisme surtout depuis le XVIIIe siècle où sur les meilleures tables, les tables les plus raffinées de l'aristocratie, qu'elles soient françaises ou autres, on va au dessert faire figurer un ananas entier qui va symboliser véritablement la richesse, le pouvoir, la puissance de l'hôte des lieux. Et au cours du 19e siècle, on va améliorer les techniques de culture de l'ananas et la conserve de l'ananas va entrer en jeu, ce qui va démocratiser ce fruit. Et tout à coup, et là on est plutôt au début du XXe siècle, l'ananas va devenir tout à fait accessible à une population qui était fascinée par ce fruit, mais qui n'y avait absolument pas accès.
en Amérique du Nord, l'arrivée dans les rayons de la grande distribution des ananas en conserve a vite donné quelques idées à plus d'un pizzaiolo. Née à plus de 2000 km de l'Italie, cette pizza à l'ananas ne pouvait être que le symbole d'une pizza déviée de sa trajectoire première. Une pizza voyageuse, une pizza d'un mauvais genre, une pizza qui file un mauvais coton outre-Atlantique, une pizza qui n'a plus rien d'authentique. Vue d'Italie, la pizza hawaïenne est souvent perçue comme une hérésie, quelque chose d'au mieux absurde, voire carrément une menace contre le patrimoine culinaire italien. Pour Pierre Leclerc, ce qui se joue dans la fierté qu'ont certains chefs italiens et italiennes à se refuser de manger de la pizza hawaïenne relève d'une défense des traditions.
Il y a dans cette question de frustration de cuisiniers italiens vis-à-vis de la pizza hawaïenne une question, oui, clairement identitaire. On sait qu'on défend de plus en plus la pizza traditionnelle napolitaine. N'oublions pas que la pizza n'est pas italienne, elle est napolitaine avant tout, et elle est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et donc il y a véritablement cette volonté de défendre la pizza traditionnelle, et je dirais que la pizza hawaïenne est probablement la pauvre victime de ce mouvement, et c'est sur elle qu'on est tombé, parce que peut-être est-elle la plus éloignée de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant la véritable pizza napolitaine.
Vouloir défendre un patrimoine culinaire national est une posture rhétorique, un état d'esprit. Mais l'idée que l'on se fait d'un ordre des choses peut finir par réellement nous faire aimer ou au contraire nous dégoûter de quelque chose. D'un dégoût intellectuel, on passe alors à un dégoût physique sincère. Pour le comprendre, j'ai discuté avec la chercheuse Sophie Thiron.
Alors, je suis doctorante en sociologie de l'alimentation et des émotions et mon travail porte en partie sur la construction sociale et culturelle des goûts et dégoûts alimentaires, notamment vis-à-vis des aliments transformés et industriels.
Dans un article universitaire, Sophie Thiron s'interroge. La pizza ananas, une faute de goût ? Sophie Thiron explique qu'aimer ou ne pas aimer un aliment dépend grandement du premier contexte dans lequel on l'a ingéré. Aussi, si la pizza hawaïenne était un grand classique valorisé par la société italienne depuis toujours, une grande partie des Italiens et Italiennes qui disent actuellement ne pas aimer la pizza hawaïenne auraient probablement un autre jugement la concernant. Tout du moins, ils ne s'interdiraient pas de la goûter, voire de l'apprécier.
La première fois que l'on goûte un aliment, si tout le monde autour exprime du plaisir dans un contexte agréable, on va plus facilement avoir tendance à associer une émotion positive à cet aliment. À l'inverse, si on a une expérience négative au moment de goûter cet aliment, par exemple quand on tombe malade ou alors qu'il y a un fort niveau de stress ambiant, on aura plus facilement tendance à y attacher une émotion négative. L'appréciation d'un aliment est réactualisée selon les expériences que l'on fait. Au fur et à mesure des expériences et des rencontres, on va donc faire évoluer notre sensibilité, chacun différemment, et elle continue à se construire au fur et à mesure de notre vécu et de notre histoire. Donc, pour en revenir à l'exemple de la pizza ananas, si vous n'aimez pas ça, mais que finalement vous en mangez tous les samedis soirs avec vos amis dans un contexte agréable, peut-être que vous allez être amené à la voir un petit peu différemment au bout d'un moment. Ou alors, au contraire, cela renforcera votre vision en se construisant par opposition, parce qu'il y a aussi des mécanismes identitaires au goût et des goûts alimentaires. Le groupe renforce ou modère les émotions individuelles. Les autres exercent un rôle d'apaisement, ou au contraire d'exacerbation, selon les personnes et les situations, et selon les liens qui nous unissent à eux ou non. Ainsi, se revendiquer comme mangeur de pizza ananas ou au contraire comme opposant à la pizza ananas, c'est revendiquer faire partie d'un groupe. L'amour ou le dégoût pour la pizza ananas devient un moyen de marquer l'appartenance à ce groupe.
D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Italie que la pizza hawaïenne est autant moquée. Chez de nombreux respectables gourmets, on se plaît à clouer la pizza hawaïenne au pilori, estimant qu'elle est une impardonnable faute de goût. Pour mesurer l'étendue de ce consensus populaire, j'ai tendu le micro à Aitor Alfonso, alias Sauce Gribiche.
Je suis journaliste gastronomie, critique culinaire, j'écris sur les choses de la bouche et du restaurant.
Aitor se décrit comme artisan mémier. Chez lui, les jeux de mots et les JPEG sont des matériaux nobles permettant de façonner un humour accessible au plus grand nombre. Cet OS de l'humour 3.0 admet que dans sa pratique, se moquer de la pizza ananas met toujours tout le monde d'accord.
Alors moi, j'adore pas ça parce que j'adore pas les accords sucrés-salés. Et celui-là est un accord sucré-salé particulièrement virulent, quoi. Qui associe, je crois, de me souvenir, l'ananas et le jambon aussi, il me semble. Ils mettent du jambon, ils mettent du fromage aussi, sans doute. Mon Dieu. Donc non, c'est vrai que j'adore pas ça sur le principe. Et alors après, la question, c'est qu'au-delà de mon goût à moi, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu une espèce de petite analyse sémiologique de cet objet détesté, quoi. Et qui fait l'objet de nombreux mèmes, parce que je pratique aussi le mème sur ma page Instagram, qui s'appelle Sauce Gribiche, et dans laquelle, c'est vrai, je m'en prends à la pizza ananas. D'abord, c'est une cible facile. C'est qu'en fait, et là, je parle en tant que mèmeur, en tant qu'artisan mémier. Quand on fait des mèmes, l'objectif, c'est de mettre tout le monde d'accord. L'idée d'un mème réussi, c'est un mème qui parle aux gens. Or, la pizza à l'ananas est une cible facile parce que tout le monde la déteste. Donc, quand je fais un mème sur la pizza à l'ananas contre elle, je sais que les gens vont liker. Mais il y a comme ça des espèces de cibles, des proies faciles. Donc, quand on fait des mèmes le lundi, par exemple, ou les pantacours. Autre exemple. Donc, l'ananas, c'est un peu le pantacours de la gastronomie. Tu sais que quand tu t'en prends à elle, ça marche. Comme c'est un accord que les Italiens considèrent hérétique, à raison sans doute, hein, parce que moi je trouve pas ça très bon, elle subit l'opprobre systématique de tout Instagram notamment. Et c'est un vilain petit canard, quoi. C'est une cible facile, c'est une proie facile encore une fois. Et c'est vrai que quand je fais des mèmes contre elle, et quand on fait des mèmes, parfois on fait un peu preuve de démagogie. Et ça, il faut bien l'admettre.
Mais pourquoi certains de nos goûts et nos dégoûts alimentaires sont-ils autant commentés sur la place publique ? Quel intérêt a-t-on à prendre position là-dessus ? Pour Sophie Thiron, s'exprimer sur nos goûts et nos dégoûts alimentaires a plusieurs fonctions sociales. Elle évoque notamment la communication, la cohésion sociale, la fonction identitaire et la fonction politique.
Exprimer ses goûts et dégoûts, c'est entrer en interaction avec l'autre. Exprimer son dégoût pour la pizza d'ananas par une grimace à quelqu'un, c'est aussi essayer de se relier à lui. Ensuite, il y a une fonction identitaire. Les goûts et dégoûts alimentaires, ils vont pouvoir relier ou opposer des groupes. Et par exemple, se moquer tous ensemble des mangeurs de pizza d'ananas ou au contraire se revendiquer comme tel, c'est être du même groupe. C'est finalement avoir en partie la même identité sociale et culturelle. Donc les goûts et dégoûts alimentaires, quand on les exprime, ils peuvent consolider des liens ou à l'inverse, marquer des différences. Et enfin, ils ont une fonction politique. Finalement, exprimer ses goûts et des goûts alimentaires, c'est aussi une manière de revendiquer des convictions. Alors là, je prends un autre exemple, mais être dégoûté par la viande, par exemple, ou par les aliments venant des supermarchés, c'est aussi pour certains affirmer qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils représentent, que ce soit pour des questions de bien-être animal, pour critiquer la mondialisation, l'hyperconsommation, le capitalisme, ou se positionner sur des questions environnementales et sociales. Ces aliments, ils en viennent à vraiment nous dégoûter physiquement, parce qu'on leur associe des valeurs et des idées qui nous dégoûtent. Et dans le cas de la pizza ananas, on peut aussi un petit peu retrouver cette idée. Aimer ou ne pas aimer la pizza ananas, c'est aussi exprimer certaines revendications. Ça peut être une forme de critique de la mondialisation, où la pizza ananas est un stéréotype de la malbouffe et du fast-food, ou bien une forme de fierté, entre guillemets, pour défendre une identité de gastronome qui ne s'autorise pas à sortir des règles quand il s'agit d'alimentation. Et à l'inverse, de l'autre côté, c'est aussi un moyen d'affirmer une sorte d'affranchissement de ces codes, ou bien d'appréciation des ouvertures internationales, des mélanges des catégories, etc.
En fait, se moquer tous ensemble de la pizza ananas, c'est quelque part faire communauté. C'est se reconnaître comme appartenant à un même groupe, c'est connecter avec les autres parce qu'on partage une référence commune. Faire communauté autour de goûts et de dégoûts nourrit des émotions collectives. Sophie Thiron.
Alors, partager les mêmes goûts et dégoûts alimentaires, c'est quelque part se reconnaître de la même culture. Le sociologue David Le Breton parle d'ailleurs de culture affective et l'historienne Barbara Rosenwein parle de communauté émotionnelle pour exprimer l'idée que chaque culture a ses règles de sentiment et de comportement. Et ces règles de sentiment et de comportement s'appliquent notamment à l'alimentation. En fait, ce qu'il est normal de ressentir et d'exprimer vis-à-vis de certains aliments est cadré culturellement. Les goûts et dégoûts alimentaires sont façonnés, réprimés selon des règles en vigueur dans le groupe. Donc partager les mêmes plaisirs ou les mêmes dégoûts alimentaires, c'est aussi se reconnaître du même groupe. Et au-delà de partager la même émotion au même moment, le collectif va avoir pour effet de stimuler et renforcer certaines émotions. Par exemple, face à un plat, mettons, totalement raté en cuisine, si l'on est tout seul, on va peut-être être un peu déçu. Mais si l'on entend tout le monde autour s'offusquer et être dégoûté, le collectif va venir renforcer le dégoût. Et donc dans le cas de la pizza ananas, le groupe vient renforcer l'amour ou le dégoût pour la pizza ananas, qui rejoint ce que l'on disait un petit peu précédemment sur les effets de contexte. Et plus largement, si on revient sur l'idée de communauté émotionnelle, ça correspond au fait qu'un groupe de personnes a les mêmes normes émotionnelles par rapport à un objet ou par rapport à un aliment. Donc dans le concept de communauté émotionnelle, il y a donc aussi l'idée que l'émotion est codifiée socialement et que le groupe va avoir des attentes quant aux émotions des uns et des autres. Et après, donc, pour ce qui est de faire communauté autour des goûts et des goûts alimentaires, il y a un certain nombre de rituels qu'on va mettre en place au sein des groupes et des communautés. Donc, quand je dis groupe et communauté, ça peut être la famille, ça peut être le cercle de collègues, ça peut être le groupe d'amis qu'on a l'habitude de retrouver. Et on va se retrouver donc autour, par exemple, de plaisirs alimentaires, que ce soit dans la journée, le plaisir de la semaine, de l'année, etc. On va partager des rituels. Donc, par exemple, prendre le café avec ses collègues ou manger un poulet rôti en famille le dimanche midi, etc. Ça, c'est une manière de faire communauté autour du plaisir alimentaire. Et ces rituels sont importants pour le groupe. C'est un moyen de souder la communauté, de se réunir et aussi de se caler sur les mêmes rythmes et les mêmes temporalités. En fait, ces émotions collectives, elles ont un rôle primordial dans l'organisation de la vie sociale. Elles permettent de réaffirmer et de renforcer l'unité sociale. On communie en partageant la même émotion au même moment. Et si je prends un exemple totalement différent, on a pu le voir récemment lors de cas un petit peu extrêmes. Par exemple, la grande joie nationale quand la France a gagné la Coupe du Monde de foot en 2018, ou à l'inverse de grands deuils nationaux, comme c'était le cas pour les attentats. À ce moment-là, partager la même émotion, c'est un moyen de réaffirmer que l'on fait partie de la même communauté, que l'on ressent les mêmes choses en même temps et que l'on est solidaires les uns des autres. Et en fait, c'est un petit peu le même mécanisme à une échelle bien moindre, bien sûr, lors des repas et autour de certains aliments. Et ça, cette manière de faire communauté, ça se voit par exemple particulièrement autour des repas de fête, là je pense à Noël, où l'ensemble de la société se cale au même moment sur la même émotion avec une atmosphère émotionnelle qui se veut plus ou moins commune à tous et toutes.
Les émotions collectives dont parle Sophie Thiron sont aussi là le principe du même, l'ossature de cet exercice astucieux qui consiste à capter un truc de l'air du temps et en faire le caustique constat dans le but de faire rire le plus grand nombre. Selon Aitor, la pizza hawaïenne est un objet culinaire pas comme les autres. C'est un produit déterritorialisé.
Ce qu'incarne cette pizza à l'ananas, c'est assez passionnant d'un point de vue un peu sémiologique, hein, au-delà de l'aspect humoristique. C'est-à-dire que c'est typiquement un plat internationalisé, quoi, qui s'appelle pizza hawaïenne, mais qui n'est pas du tout de Hawaï, comme les California Rolls, par exemple, qui ont été inventés à Toronto pour donner une touche un peu californienne à un plat japonais. C'est un plat absolument déterritorialisé, quoi. C'est un plat qui n'est plus de nulle part, parce que c'est une pizza italienne. C'est peut-être aussi pour ça que les Italiens la détestent autant, parce qu'en fait, c'est une pizza non italienne. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, la déterritorialisation et cette mondialisation d'un plat prend des proportions un peu folles. C'est une espèce de mélange fourre-tout de produits des quatre coins du monde, quoi, au fond. Donc elle est aussi intéressante. C'est-à-dire qu'elle est aussi détestée que fascinante à observer et pas passionnante à manger à mon goût. Même si, évidemment, les gens ont le droit d'aimer ça.
Alors, quiconque a déjà essayé de raconter un mème à l'oral sait à quel point l'exercice est périlleux. Mais nul besoin de ménager un spécialiste du mème comme Aitor. Je lui ai donc demandé de me donner un exemple de mème anti-pizza hawaïenne.
J'en ai un en tête parce qu'il y a quelqu'un qui fait des figurines, un miniaturiste quelque part dans le monde, qui a fait un truc génial. Tu vois quatre agents de Tchernobyl, tu sais, qui nettoyaient les déchets radioactifs sur une pizza, en train de débarrasser la pizza de ces morceaux d'ananas. Donc, tu vois, tout est dit, quoi.
À ce stade de notre discussion, j'en ai profité pour demander à Aitor de me raconter son rapport au mème.
Je suis syndiqué au syndicat des mémiers français. C'est une institution très sérieuse, Emilie Lestari. Il faudrait peut-être commencer par l'aspect névrotique de la chose. C'est-à-dire, en fait, j'ai un tempérament addictif. Et le mème est un objet d'addiction, on ne va pas se mentir. Et c'est exactement le même type d'addiction que celui de la machine à sous, c'est-à-dire de remettre une pièce dans la machine, ce truc de toujours remettre une pièce. Et c'est aussi lié à ce que disait Deleuze sur l'alcoolisme. Deleuze disait, l'alcoolique, c'est celui qui pense toujours à l'avant-dernier verre, parce qu'il dit toujours, il y aura le verre d'après. Et bien, quand tu fais un mème, enfin moi en tout cas, mais ça j'en ai beaucoup parlé à ma psychanalyse, je suis très content que tu m'en parles, d'en parler enfin publiquement, c'est un certain rapport addictif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mème, c'est la reproductibilité de l'art, ou de l'art populaire, ou des images du moins, c'est Walter Benjamin à l'ère du 2.0, quoi. C'est-à-dire c'est l'hyper, hyper, hyper reproductibilité des images. Le principe des mèmes, c'est qu'en fait, les mêmes images sont déclinées des milliers de fois. Et il y a dans cette déclinabilité-là, et dans cette espèce de foisonnement possible, moi je trouve ça passionnant. Mais encore une fois, je trouve ça passionnant, en même temps, ça... Encore une fois, quoi, c'est de l'ordre de l'addiction, hein, un peu. Mais ça va, hein, je vais bien.
La pratique du mème pose la question du consensus. Il faut une image percutante et un trait d'esprit accessible à tous. Il faut pouvoir donc « relate », comme on dit en anglais. Autrement dit, vite s'identifier aux propos. La critique de la pizza hawaïenne illustre parfaitement cela. Dans la même catégorie, Aitor cite le beurre doux.
Un slogan drôle qui était ce truc de « tout le monde déteste le beurre doux », qui est un peu forcé. Alors évidemment, ici, on parle depuis le registre de l'humour. Or, l'humour, c'est un registre de l'excès, de l'abus. Donc quand on s'en prend à la pizza à l'ananas, il faut un peu forcer le trait, c'est le principe de l'humour. Si je me place d'un point de vue non humoristique, si j'ose dire, après tout, pourquoi pas ? Moi, si on me servait une pizza à l'ananas, je la goûterais. Puis après, j'irais voir un exorciste, mais je la goûterais.
Finalement, là où il y a faute de goût selon les puristes, il y a un rappel de la norme. Et si les normes culinaires existent et qu'en dévier est critiqué, à l'inverse, la transgression peut être une attitude revendiquée. Sophie Thiron.
C'est vrai que les puristes pointent du doigt la pizza à l'ananas un peu comme la faute de goût suprême. Pour comprendre ça, il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est que la faute de goût. En fait, la faute de goût, c'est ce qui dévie de la norme. C'est la transgression de règles de bienséance, de règles morales. C'est la même chose avec l'idée de couper les spaghettis. C'est une règle de bienséance qu'on ne peut pas dépasser. Et cette transgression, elle est à relier à la notion de catégorie. Dans les schémas de pensée, on classe les aliments dans des catégories. Ce qui est mangeable, ce qui n'est pas mangeable, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que je connais, ce que je ne connais pas, etc. Et on a besoin de reconnaître, d'identifier l'aliment pour le catégoriser comme comestible. Et si le produit ne peut pas être identifié clairement, soit il n'est même pas catégorisé comme un aliment mangeable, soit il est source d'angoisse, car on ne sait pas vraiment si on peut le classer dans la catégorie des aliments non toxiques. Et la pizza ananas, elle mélange effectivement un petit peu les codes. Elle mélange le sucré salé, le sain malsain, le traditionnel et l'innovation, un plat caractéristique d'un pays, l'Italie, et en même temps un ingrédient qui vient de loin. On ne sait plus trop bien où la classer. Elle dépasse les règles, entre guillemets, qui permettent de la mettre dans une catégorie claire. Et ça, c'est source d'angoisse pour certains. Alors que pour d'autres, à l'inverse, c'est un peu la fierté de dire qu'on fait fi de ces règles-là. La pizza à l'ananas constitue un petit peu une transgression interdite de règles sacrées. Et dans le cas des mangeurs de pizza à l'ananas, se revendiquer comme tel, c'est aussi dire que l'on s'affranchit de ces règles d'une certaine manière et que l'on dépasse ces catégories. Et en effet, la faute de goût est moquée par les puristes car elle constitue une transgression de l'ordre moral et des valeurs sociales. Et sur le plan symbolique, on peut considérer que les moqueries sur la pizza à l'ananas révèlent ainsi un certain rapport aux règles, aux codes qui régissent l'alimentation. D'un côté, on aurait donc les défenseurs des codes et du modèle alimentaire plus traditionnel. Et ça rejoint un petit peu ce que l'on avait commencé à dire sur l'idée des goûts et des goûts alimentaires qui sont porteurs de revendications politiques et sociétales. Mais je me permets une petite parenthèse ici pour rappeler aussi qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de modèle alimentaire traditionnel ou authentique figé dans le temps. En fait, les aliments, ce qu'on mange, les habitudes alimentaires et les modèles, ils évoluent en permanence avec la société. Et donc, ce qu'on va aujourd'hui appeler traditionnel ou authentique, c'est pas la même chose que ce que l'on appelait traditionnel ou authentique il y a 50 ans. Et finalement, des recettes qu'on va considérer comme traditionnelles sont rarement très très anciennes. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche juste avant et il semblerait que la pizza ananas soit d'ailleurs plus vieille que le coulant au chocolat, par exemple, qu'on retrouve dans beaucoup de restaurants qui se disent traditionnels et en fait qui n'a été mis au point sous cette forme qu'il y a que 40 ans par Michel Brass. Donc, les notions même de traditionnel et d'authentique sont des constructions sociales qu'il faut aussi nuancer.
Admettre aimer la pizza hawaïenne n'est pas seulement perçu comme une faute de goût. Tout dépend donc du contexte dans lequel on s'exprime. Car lorsqu'on est un chef italien, cela peut être à l'inverse, se montrer ouvert d'esprit et suffisamment libre pour se déjouer du poids des traditions. Les traditions elles-mêmes sont en constante évolution. L'historien de l'alimentation Pierre Leclerc m'a raconté qu'il aime la pizza hawaïenne, mais que plus que ça encore, il appelle à questionner l'idée de purisme en cuisine.
Au risque de choquer une certaine partie des internautes, oui, tout à fait. Et voilà, ça c'est un goût personnel. Il se fait que j'apprécie la pizza hawaïenne, mais même si je ne l'appréciais pas, je n'aurais absolument aucune raison d'en vouloir à cette pizza hawaïenne, parce que quand on examine l'histoire générale de la pizza, on s'aperçoit que c'est que la pizza est multiforme, que la pizza s'adapte dans tous les milieux, dans toutes les sociétés, dans tous les groupes où elle va s'installer. On s'aperçoit que la pizza qui est arrivée à la fin du 19e siècle aux États-Unis très très vite va être très différente de la pizza qui va s'installer à Marseille au même moment, parce que elle entre dans deux cultures différentes et elle va bien entendu prendre des formes différentes. Donc ce processus d'acclimatation de la pizza de tous les sociétés où elle entre est un processus déjà ancien. Et donc, je ne vois vraiment aucun problème à ce que la pizza soit à l'ananas, d'autant plus que des pizzas sucrées et des pizzas qui mêlent le salé et le sucré existent depuis le XVIe siècle. Donc, il ne faut vraiment pas s'en offusquer.
Ne pas s'offusquer, voilà l'invitation que formule l'historien Pierre Leclerc, qui préfère saluer les métissages plutôt que s'incliner devant les postures rigoristes. Car avec ou sans notre volonté, les objets et les idées s'exportent, voyagent et se déclinent en de nouvelles versions de par le monde. Un constat que le poète et philosophe Édouard Glissant a théorisé sous le nom de « créolisation ». La racine unique tue tout ce qu'il y a autour d'elle, écrit-il en 1993. Elle est sectaire et intolérante. Il faut remplacer l'idée de la racine unique par l'idée de l'identité relation ou rhizome. Alors, et si la pizza était l'un des avatars de cette fameuse créolisation ? Née en Italie, cette spécialité est aujourd'hui protéiforme. Elle porte en son cœur un processus d'acclimatation dans divers coins du globe. En fin de compte, selon le point de vue depuis lequel on l'observe, la pizza hawaïenne est tantôt un objet culinaire dévoyé de son artisanat, signe d'une mondialisation qui déforme et industrialise les choses à l'envi, tantôt le symbole d'une transgression en cuisine, une émanation de la nécessaire subversivité en cuisine, celle qui balaye les codes de la bien-pensance et n'a que faire des candidat-on. Ce que la pizza hawaïenne montre aussi, c'est qu'au-delà du goût de quelques tranches de fruits dont on fait mine de débattre, c'est surtout des goûts et des dégoûts des autres que l'on parle. Pourquoi les goûts des autres sont-ils aussi importants dans la construction et l'expression de nos goûts ? En quoi ce qu'aiment ou ce que détestent les autres nous aide à construire ce que nous sommes ? Dans le prochain épisode, nous ouvrirons la discussion à une question plus large encore, celle de l'altérité en matière de goût, sous un angle anthropologique et ethnologique. En somme, dis-moi ce que tu n'aimes pas et je te dirai ce que j'aime et donc ce que je suis. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho, Mathilde Jonin et Diane Le Sieur. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.